Il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Merci Étienne. Voilà. Bonjour à chacun. J'aimerais donner quelques mots de commentaire sur ce passage qui, je pense, nous dit déjà beaucoup de choses. Et je suis jamais sûr qu'il y a besoin encore de le commenter, mais on va quand même le commenter un peu. J'avais envie d'abord de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à Kananga. Je ne sais pas si quelqu'un sait où est Kananga. C'est en Afrique, ça s'est déjà bien commencé. C'est en plein centre du Congo. À l'époque, c'était la capitale du Kasaï. J'ai eu la chance d'y être 2 mois en 91, ça remonte un petit peu. À l'époque, c'était une ville de 800 000 habitants. Aujourd'hui, il semble qu'il y en a plus de 2 millions. Et c'était un des plus grands comptoirs de diamants du monde. Ouais, c'est quand même une ville importante et pourtant, je ne la connaissais pas non plus avant d'y mettre les pieds. Une des choses qui m'a marqué dans ce... Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans ce temps là-bas, mais une des choses qui m'a marqué, c'était une visite dans un hôpital missionnaire. C'est un hôpital qui avait été créé par une mission américaine et pratiquement tout le personnel de cet hôpital était membre des églises évangéliques de la ville. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on a visité la maternité ou le service pédiatrique, je pense que c'était, et on a été surpris de découvrir que les infirmières de l'ethnie Kasaï ne lavaient pas les bébés de l'autre ethnie. Elles les nourrissaient, elles les soignaient, mais elles ne changeaient pas leur couche, elles ne faisaient pas leur toilette. Les enfants devaient attendre qu'une infirmière de leur propre ethnie prenne son poste ou éventuellement quelqu'un de la famille passe. Moi, j'étais jeune chrétien et j'étais passablement choqué. Et j'en ai parlé avec un médecin américain qui était là, et lui était très positif. Lui, il voyait surtout que les soignantes soignaient et nourrissaient ses enfants. Ouais. Dans une ville où tous ont assisté à des combats à la machette et perdu des proches, c'était déjà un miracle que son personnel accepte dans l'hôpital des malades de l'autre ethnie, et même des collègues de l'autre ethnie. Pour lui, que ses infirmières offrent des soins à ses bébés, c'était déjà une marque puissante de l'intervention de Dieu. Aimez vos ennemis. Qu'auriez-vous fait à la place de ces infirmières? En passant, merci de prier pour la province du Kasaï. Il y a une milice qui s'appelle Kamnena Nsapu qui commet des exactions actuellement dans cette région. Ils ont pillé notamment des monastères, mais aussi plusieurs quartiers en périphérie de Kananga durant le mois de septembre. Ouais. Aimez nos ennemis. Il me semble dans les paroles de Jésus, il y a deux étapes qui nous sont proposées. La première étape, c'est ne réponds pas par la violence à la violence. Et la deuxième étape, c'est bénir nos ennemis et nos persécuteurs. Jésus appuie son enseignement sur un verset de l'Ancien Testament que on retrouve au moins 4 fois dans la Bible. ici, hein, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. On le trouve plutôt sous la forme soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Vous trouvez ça surtout dans Lévitique. Par exemple, Lévitique 11, 45, Lévitique 11, 19, verset 2, et encore dans 1 Pierre. L'apôtre Pierre reprend aussi ce verset, 1 Pierre 1, 15. Jésus le reformule à sa manière, « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. » Voilà notre défi, être saint et être parfait, parce que nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant qui est parfait. Ah, un objectif qui est haut placé. Ne pas répondre par la violence, bénir nos ennemis et nos persécuteurs, aimer nos ennemis, voilà des objectifs qui nous engagent. Les situations évoquées par Jésus sont en fait assez différentes les unes des autres et je vous propose de les prendre une après l'autre assez rapidement. La première situation qu'il mentionne, c'est la mention de « œil pour œil et dent pour dent ». C'est un verset de l'Ancien Testament. Et il nous dit, moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Le problème que Jésus aborde ici, c'est que cet ordre œil pour œil, dent pour dent, n'est pas adressé à tous. Il est adressé aux juges dans l'Ancien Testament. Ce sont les juges qui doivent être justes et appliquer ce qui est juste, ni plus ni moins. Mais voyez qu'à l'époque de Jésus, les gens commencent à l'appliquer eux-mêmes. C'est un peu la justice des cow-boys, quoi. Jésus nous rappelle ici que la Bible enseigne partout que nous avons à laisser le juste juge faire son travail. Le juste juge, surtout Dieu, mais aussi les juges civils éventuellement. Mais nous ne sommes pas les juges. Nous sommes des enfants du Très-Haut avec d'autres enfants du Très-Haut. J'avais juste envie de relire quelques versets où l'apôtre Paul commente lui aussi ce passage, comme Jésus, c'est dans Romains 12. Je vais juste lire 5 versets. Voici la manière dont Paul en parle. Romains 12, à partir du verset 17. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ensuite, Jésus parle de gifle. Et avec une précision, si quelqu'un te gifle sur la joue droite. Ouais. Autrement dit, si quelqu'un te gifle avec le dos de sa main. Vous voyez ? Quand on gifle d'habitude, on gifle sur la gauche ou gauche. Enfin, je gifle pas souvent, hein, mais... Mais vous voyez, on gifle sur la... avec le dos de la main. À l'époque, c'est une manière d'insulter ou d'humilier quelqu'un. Le but, c'est pas de lui faire mal. Quand on veut faire mal à quelqu'un, on prend plutôt le poing, vous voyez. Et plutôt le côté gauche, parce que voilà. Mais c'est une manière d'humilier la personne. Et vous voyez la réponse que Jésus propose, qui est un peu étrange, hein, tant lui aussi l'autre. En gros... Il propose, quand quelqu'un veut nous humilier publiquement, de dire « Comporte-toi comme un homme. Frappe-moi franchement ou frappe-moi pas. » Vous voyez un peu ce... Bon. C'est une marque de courage, mais c'est surtout une manière de refuser l'humiliation. Ouais. Il nous dit ici « Résiste. Résiste au mal. Ouais. » Je sais que je suis le fils du Père Céleste. C'est un honneur et une fierté d'être fils du Père Céleste. Donc, on n'a pas à se laisser humilier. Pas en répondant par la violence, mais en faisant réfléchir la personne en face de nous. Vous savez très bien qu'on peut parfois répondre coup par coup, mais rester profondément humilié. Ici, il nous propose une manière de relever la tête. C'est-à-dire, je me rappelle, je suis fils et fille du Très-Haut. Et aussi, bien sûr, je ne suis pas appelé à me venger. L'autre situation qu'il mentionne, c'est cette histoire de chemise ou de vêtements ou de manteau, ça dépend des traductions. Donne ton manteau à quelqu'un qui veut ta chemise. Ouais, intéressant comme approche, hein. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière de dire à quelqu'un que la relation compte beaucoup plus que le matériel. Oui ? C'est donner une chance qu'une relation puisse se mettre en place, si possible, une relation juste. Une relation où, justement, on prend pas les manteaux des autres, quoi. Mais, au moins, où la relation est plus importante pour nous que le matériel. Tant que nous sommes là à compter les points et à réclamer notre dû, c'est pas possible d'aller plus loin. Vous savez, comme moi, combien de divorces ou d'héritages ont provoqué des blessures terribles, en partie parce qu'on se querelle de manière démesurée sur des choses qui en valent peut-être pas la peine. Jésus parle ensuite de l'armée romaine, parce que ce sont les soldats romains qui ont le droit d'exiger qu'on porte leur paquetage sur un kilomètre. En gros, l'armée romaine estime que les populations doivent aider leurs soldats, mais quand même pas trop exigés. Ils sont censés être une armée d'occupation, pas une armée de tyrans. Donc ils ont le droit de demander un kilomètre, mais pas plus. Après, le soldat doit trouver quelqu'un d'autre pour porter son paquetage. Vous savez peut-être que le paquetage d'un soldat romain, c'est une trentaine de kilos. Hein, donc, bon. On comprend qu'ils avaient parfois envie que quelqu'un d'autre les prenne à leur place. Jésus propose ici quelque chose d'assez étrange. Au lieu de voir ça comme une sorte de réquisition, une obligation, on me demande encore, hein, il demande de changer ça et de voir comme l'occasion de marcher avec quelqu'un. Ouais. Vous voyez, la phrase clé ici, c'est avec lui. Porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Vous voyez, et j'imagine que ça devait être assez déstabilisant pour un soldat qui veut juste faire preuve un peu d'autorité ou d'autoritarisme de s'entendre dire quelque part, tu es un humain, je suis un humain, puis je suis heureux de te rencontrer, d'être avec toi. Je le dis parfois, mais je vous encourage beaucoup à demander très sincèrement comment allez-vous aux personnes que vous rencontrez, y compris vos médecins, vos mères, vos profs, vos patrons, surtout ceux que vous appréciez pas trop, mais c'est important de pouvoir dire à quelqu'un comment vas-tu ? C'est-à-dire dire que vous le reconnaissez comme un être humain, pas juste comme un patron, un prof ou un médecin. Comme une personne que vous rencontrez. Ouais, je me rappelle une fois, on était chez le gynécologue avec ma femme, c'était je pense pour la naissance de Maëlle. Puis je lui ai demandé « Comment allez-vous ? » Puis elle m'a fait des grands yeux, puis elle m'a dit « C'est la première fois qu'on me fait ça. » Ça m'a choqué qu'elle me dise « C'est la première fois qu'on me fait ça. » Oui, franchement. Bon. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui demande. En gros, on parle ici des gens qui demandent à emprunter et sans doute à ceux qui empruntent mais qui ne rendent pas. Ouais. Puis on nous demande, ben continue quand même à prêter. On est toujours dans cette idée. La relation compte beaucoup plus que le relationnel. Le fait que je suis fils du Très-Haut face à quelqu'un qui est aussi un fils du Très-Haut, ça, c'est ce qui compte le plus. Vous savez, il y a un moment donné, avec Valérie, on a mis dans notre budget de ménage une ligne pour le remplacement des livres prêtés jamais rendus. Ouais. Parce que, pourquoi on a fait ça ? C'était une manière, parce que je me rendais compte que je commençais parfois à me dire, « Oh là, quand même, celui-ci, je ne lui prête plus rien. » Ou à me dire, « Alors là, vraiment, ça fait trop, je ne prête plus rien à personne. » Et puis de dire simplement, ben c'est normal que tous les livres ne reviennent pas. Bon. Après, honnêtement, en plus, il est rare que je lise un livre 2 fois, donc il est très rare que je le rachète quand il ne revient pas. Mais bon, il y a quand même quelques livres que j'ai à double parce qu'un jour, ils sont revenus. Bon. Mais bon, vous voyez, pour dire, qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Ouais. Est-ce qui compte, c'est une relation ? Voilà. Si mes livres peuvent servir à édifier quelqu'un, gloire à Dieu. C'est mieux s'y rendre, mais s'y rendre pas, finalement, est-ce que c'est tellement important ? Et finalement, Jésus demande d'aimer nos ennemis, de faire mieux que tout le monde, parce que tout le monde aime ses amis. mais nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Voilà. J'ai commencé par cette illustration à Kananga avec cette difficulté d'aimer nos ennemis. Avec ce double regard, Jésus nous demande d'être parfait comme lui. Et puis, aussi cette réalité, je suis un être humain imparfait qui tente d'apprendre à aimer et que c'est un vrai travail. Et moi, ça m'a pas mal fait réfléchir, hein, cette interpellation de ce médecin américain qui disait, il y a déjà un bout de fait, quoi. Un bout de fait vers le sens d'aimer nos ennemis, même s'il y a évidemment encore un chemin à faire. Mais au moins, ces infirmières ont commencé. L'histoire de Kananga posait aussi une question assez délicate. Finalement, qui est mon ennemi ? Le bébé d'un ennemi est-il un ennemi ou seulement un bébé ? C'est quand même, vous comprenez ce que je veux dire par là ? Dans Luc 10, il y a un scribe qui pose la question inverse. Qui est mon prochain ? Qui est-ce que je dois aimer ? C'est pas facile comme question. La réponse de Jésus est assez claire. Je suis appelé à aimer celui que Dieu place sur mon chemin. Il reste la question, qui est mon ennemi ? Je trouve que c'est une question difficile parce que quelques-uns parmi nous ont vécu dans des pays en guerre. Ennemi, ça veut dire tout autre chose sans doute que pour la plupart d'entre nous. On a parfois des ennemis personnels, des gens contre qui on a une espèce de haine ou de ressentiment. Mais il y a parfois des vrais ennemis, des peuples avec qui nous sommes, entre guillemets, officiellement ennemis, officiellement en guerre. Heureusement, je pense que la France n'a pas d'ennemis dans ce sens-là, même si certains pays nous considèrent comme tels parce que nos armées ont combattu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a toujours eu, nos soldats à nous, qui combattaient quelque part. Nous sommes parfois des ennemis à leurs yeux. Sont-ils des ennemis pour nous ? Il me semble que la situation en Israël à l'époque de Jésus peut peut-être nous éclairer un peu sur qu'est-ce que ça veut dire, comment on doit se comporter envers un ennemi si vous avez des ennemis. À l'époque de Jésus, Israël est un pays occupé par l'armée romaine. Il y a des très violents combats entre les armées rebelles, qu'on appelle les zélotes, et puis les armées romaines. Et puis l'armée romaine, comme beaucoup d'armées dans le monde, ils ont tendance à faire des expéditions punitives, à détruire des villages entiers après qu'un des soldats a été assassiné, par exemple. On estime qu'en 3 ans de carrière, Pilate a crucifié 3000 personnes. En principe, la crucifixion, c'est pour un meurtrier qui a commis au moins plusieurs meurtres. Je ne pense pas que ces 3000 personnes ont forcément été des grands criminels. Vous voyez là la logique de l'armée romaine. On fait peur. Peu de récits du Nouveau Testament nous racontent les exactions de l'armée romaine. Il y en a un, c'est dans Luc 13, où on nous raconte l'histoire de Galiléens qui ont été massacrés par les soldats romains. En gros, l'histoire, pour ce qu'on a pu reconstituer, parce que Jésus en parle très peu, ce sont des gens de Galilée qui s'étaient mis en groupe pour aller à Jérusalem offrir des sacrifices. Et l'armée romaine les a pris pour un rassemblement de soldats rebelles et les a massacrés. Imaginez ça, des brefs croyants en marche, et brusquement, ils ont les flèches qui leur tombent dessus. Et étonnamment, Jésus en dit pratiquement rien. Sinon, et toi, es-tu en règle avec Dieu ? Étonnant, hein ? À côté des exactions de l'armée romaine, on raconte aussi la conversion de Corneille, qui est quand même un capitaine de la garde rapprochée du gouverneur. Rappelez, le gouverneur qui a crucifié 3000 personnes ? On raconte comment les magistrats de Philippe ont mis Paul et Silas en prison, mais on raconte aussi comment un homme qui s'appelle Claudius Lysias, un commandant de l'armée romaine, a protégé l'apôtre Paul à Jérusalem. Vous voyez ce qu'on nous dit ici. Les Romains sont les ennemis, mais le Nouveau Testament montre tout le temps que tous les soldats romains ne sont pas des ennemis. Certains des soldats sont mes frères. Je pense que ceux d'entre nous qui ont connu des pays en guerre, vous savez comme il est difficile de ne pas faire des amalgames, de ne pas mettre tout le monde dans le même paquet. Et vous savez bien que dans la rhétorique de nos politiques, on fait des grands paquets. La Bible nous invite à voir un individu, une personne. Une personne qui peut être digne de confiance ou qui peut ne pas être digne de confiance. Ouais. Vous voyez, Jésus ne va pas exprès aller à Jérusalem où il a des ennemis. Hein. Ouais, bon. Mais il va pas faire des amalgames. Il va voir des individus. Pour terminer, deux exemples que j'ai ramenés de Centrafrique. Le premier exemple, c'était une discussion avec notre chauffeur. Et il nous rappelait deux choses. La première chose, c'est que beaucoup ont été tués justement parce qu'ils ont refusé l'amalgame. Des musulmans ont protégé des chrétiens et ont été tués pour ça. Des chrétiens ont protégé des musulmans et ont été tués pour ça. Aurions-nous suivi leurs exemples? Aimer nos ennemis, c'est un vrai défi. Et l'autre chose qu'il me racontait, il disait, ce qui est compliqué, c'est que, bon, les gens ont pillé ma maison. Le vrai problème, c'est pas tellement ce que j'ai perdu, mais c'est que s'ils ont pillé ma maison, c'est que quelqu'un les a renseignés. Qui les a renseignés? Quelqu'un qui connaissait cette maison de l'intérieur, un proche. Vous voyez tout ce que ça provoque. Et il disait, c'est quelque part presque plus facile de pardonner aux milices qui ont attaqué les maisons que de vivre avec cette méfiance permanente. Lequel de mes voisins m'a trahi? Oui. Suis-je préoccupé par aimer mes prochains? Suis-je préoccupé par ma propre sécurité? Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Aimer nos ennemis. Et en fait, j'avais mis encore un troisième exemple de RCA. Voilà. L'exemple de la ville de Boda. Je ne sais plus si je vous ai déjà raconté cet exemple-là. C'est une ville qui est un peu à l'ouest de Bangui. Avant la guerre, il y avait un grand mélange des différentes ethnies et des ethnies chrétiennes ou musulmanes. Avec la guerre, la ville a été coupée en deux. Un quartier chrétien, un quartier musulman, et puis les casques bleus de l'ONU au milieu. Vous voyez le troupeau. Ça veut dire que beaucoup de gens ont perdu leur maison, d'un côté ou de l'autre. Et ils savent que quelqu'un d'autre habite maintenant dans leur maison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et puis il y a eu deux pasteurs qui un jour ont dit « on ne peut pas continuer comme ça ». Donc ils ont pris leur moto, ils ont passé la ligne, ils sont allés sur la place du marché de l'autre côté, et ils ont dit, je veux parler aux responsables. La police leur a dit plus tard qu'ils étaient sûrs qu'ils ne reviendraient jamais. Bon, n'empêche, ils ont commencé à parler. À parler. Ça a pris pas mal de temps, il a fallu pas mal d'années. La dernière fois qu'on était en RCA, excusez-moi, c'est toujours un peu émouvant d'en parler, un des responsables de Portes Ouvertes là-bas nous disait avec beaucoup de joie, tu sais, ils ont maintenant un seul marché. Un seul marché, plutôt qu'un marché dans les chaque côté de la ville. La réconciliation a pris du temps, mais ils ont commencé par un bout. Je vous invite à prier.